Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Il est 9h40 à Paris, bienvenue si vous nous rejoignez, c'est la deuxième partie d'appel sur l'actualité, place à la Libre Antenne, 20 minutes pour commenter l'actualité de votre choix. La Libre Antenne, vous le savez, c'est aussi l'occasion de nous sensibiliser à des sujets dont on ne parle pas suffisamment, selon vous, de nous interpeller sur des sujets qui ne font pas forcément la une de la presse internationale. En tout cas, j'ai jeté évidemment un coup d'œil sur les appels que nous avons reçus juste avant de commencer l'émission. Vous êtes encore très nombreux ce matin à souhaiter commenter la condamnation de Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire. On va d'ailleurs commencer dans un instant la Libre Antenne avec ce sujet-là. Des réactions également sur la victoire du PSG face à Chelsea. C'était cette semaine, évidemment. Belle revanche pour le Paris Saint-Germain. Le calendrier électoral en Guinée, on en parlera également durant les 20 prochaines minutes. En tout cas, où que vous soyez, vous avez envie de commenter l'actualité, appelez-nous 33 9 693 693 70. Bonjour Mamadou.
Oui, bonjour Juan.
Vous nous appelez d'Abidjan. L'ex-première dame de Côte d'Ivoire a donc été condamnée cette semaine à 20 ans de prison pour attentat contre l'autorité de l'État, participation à un mouvement insurrectionnel et trouble à l'ordre public durant les violences post-électorales de 2010-2011 qui ont fait 3000 morts. Et vous dites, vous, Mamadou, que ce verdict aura incontestablement des conséquences sur le processus de réconciliation dans votre pays.
Oui, bien sûr. Parce que, vous savez, ce verdict n'est pas juste. Il n'est pas juste. Et depuis, nous qui observons, nous voyons une sorte de lien incestueux entre l'exécutif et le judiciaire. Vous voyez ? Donc, les deux pouvoirs donnent l'impression d'un coureur qui court et se gratte le dos. On ne peut pas faire les deux en même temps.
Mais alors, attendez, expliquez-vous, parce que le gouvernement ivoirien, lui, a démenti toute interférence dans cette lourde condamnation de Simone Gbagbo. La justice fait son travail de manière totalement indépendante, a dit le porte-parole du gouvernement.
Oui, ça c'est la voie officielle. Mais lorsque vous prenez la composition du jury, lorsque vous voyez, n'est-ce pas, tout le battage médiatique qui entoure, n'est-ce pas, ce procès, on sent que, n'est-ce pas, ces personnes... Il est déjà condamné avant même que le procès n'ait eu.
Enfin, le battage médiatique, Mamadou, le battage médiatique, il est compréhensible. Une ex-première dame sur le banc des accusés qui doit s'expliquer et venir argumenter et se défendre devant une justice, ce n'est pas anodin, ce n'est pas tous les jours que ça se produit. Donc forcément, il y a le battage médiatique. Mais pourquoi dites-vous que la lourdeur de ce verdict aura des conséquences sur la réconciliation?
Non, pas tant la lourdeur du verdict que l'absence, n'est-ce pas, pas tant de preuves. Parce que, c'est extraordinaire que dans un tel procès, n'est-ce pas, pas à un seul moment, on ait brandi des preuves irréfutables. Vous voyez, Mme Gbagbo, nous avons l'impression qu'elle a été condamnée de sa réputation. Voilà une réputation de dur à cuire, une réputation sulfureuse. C'est sur cette réputation qu'elle a été condamnée.
Ouais. Donc les témoins qui sont venus à la barre ne vous ont pas convaincu?
Oui, c'est faux. Ouais. Tu sais comment expliquer pourquoi, par exemple, quelqu'un comme Michel Gbagbo, qui est...
Le fils, le fils de Simone Gbagbo et de Laurent Gbagbo.
Le fils de... Voilà. Qui était personnage sans envergure politique, qui n'a jamais été membre des mouvements étudiantins, il n'a jamais pris part à une manifestation estudiantine en tant que animateur. Il n'a jamais pris part à un meeting pour haranguer des foules.
Oui.
Est-ce qu'on m'explique pourquoi ce jeune homme est coupé de 5 ans de prison et Assimi Gessan, qui est le numéro 2 du STI, ne prend que 18 mois avec sursis?
Avec sursis, hein, parce qu'il est libre puisqu'il a déjà effectué cette peine de détention en détention provisoire. Donc pour vous, il y a beaucoup d'incohérences. On va voir ce qu'en pense Inza, qui nous appelle lui aussi d'Abidjan. Bonjour Inza.
Bonjour Juan.
Vous comprenez le scepticisme de Mamadou à l'instant ou pas?
Oui, mais Mamadou, je me pose la question, est-ce qu'il était en Côte d'Ivoire pendant la crise? Quand quelqu'un, nous avons traversé une situation où il y a ceux qui ont exécuté et il y a ceux qui ont conçu le projet de résister à ce qu'on appelle au pouvoir qui avait gagné les élections. au candidat qui avait gagné les élections. Mais ne serait-ce que le côté intellectuel. Elle fait partie de ceux qui ont conçu le projet de résister au pouvoir étatique. Mais qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on apporte comme preuve? Bah, il y a ceux qui ont exécuté, on verra pas Madame Gawo aller sur le terrain pour exécuter une tâche, mais elle a conçu ce projet. Elle fait partie de ceux qui ont conçu ce projet.
Enfin, elle a conçu INSA, encore faut-il apporter les preuves. Voyez.
Toutes les archives, on l'a vu à la télévision. Toutes les archives de la RTI, le démon. Elle est passée à la télévision, elle a organisé des meetings au Palais de la Culture à Abidjan. Vous voulez qu'on apporte quelle preuve?
Ouais.
Mais serait-ce que l'aspect intellectuel de ce projet macabre? Il n'y a pas de preuve, on ne dira pas qu'elle est allée sur le terrain pour juste.
Les arguments avancés par l'accusation vous ont convaincu de la culpabilité de Madame Gbagbo. En tout cas, c'est vrai que plusieurs ONG se sont étonnés effectivement des approximations dans les propos des témoins, beaucoup de conditionnels. On se souvient même que le directeur du bureau Afrique de la FIDH a dit que c'était un piètre spectacle qu'offrait la justice ivoirienne. Donc voilà, le débat est loin d'être clos. En tout cas, une chose est claire, c'est que cette condamnation divise encore aujourd'hui la Côte d'Ivoire. On aura peut-être l'occasion d'y revenir dans les prochaines semaines. Merci Mamadou et merci Inza. 33 9 693 693 70. Le projet d'accord de paix au Mali, on en parle avec Tapa qui nous appelle de la région parisienne. Bonjour Tapa.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Alors, je rappelle simplement qu'il y a quand même une dizaine de jours, les autorités de Bamako ont paraphé ce texte. La coordination des mouvements de la Zawad, qui regroupe plusieurs mouvements comme le MNLA ou le MMA, a demandé un délai de quelques jours, de quelques semaines pour consulter sa base. Et le moins qu'on puisse dire, Tapa, c'est que cette base est vent debout contre ce projet d'accord de paix, donc rien ne dit que la coordination des mouvements de la Zawad signera cet accord de paix. Comment vous réagissez, comment vous suivez, vous, cette actualité?
Oui, ce que je peux dire, c'est d'abord par rapport au paraphé de l'accord par le gouvernement. Je pense que le gouvernement a pris ses responsabilités, qui est de prendre des décisions, même si elles ne sont pas populaires dans l'intérêt du peuple. Elle l'a fait. Maintenant, du côté de groupes rebelles, je pense que chacun doit assumer ses responsabilités, y compris la communauté internationale. On nous parle de la base, mais quelle base? Les 200 personnes qui manifestent à Kidal, c'est facile parce qu'après avoir chassé toutes les populations civiles qui étaient pro-maliens à Kidal. Et moi, je pense que la communauté internationale doit agir maintenant. Il y a récemment le Conseil de sécurité qui a mis l'idée des sanctions pour ceux qui seront un obstacle contre la paix. Mais il est temps de passer à cet acte-là pour sa propre crédibilité.
Et en même temps, les centaines de personnes qui ont manifesté ces derniers jours à Kidal estiment que ce document ne répond pas à leurs exigences et qu'il ne répond pas aux revendications de la population du Nord, puisqu'il n'y a à aucun moment, le texte ne fait référence à un quelconque statut d'autonomie du Nord, comme le réclament ces personnes-là.
Mais à ce que je sache, le gouvernement malien n'a pas été à Alger pour négocier un statut d'autonomie du Nord. Il s'agit de trouver un accord qui garantit la paix et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national et le développement, le bonheur du peuple du Mali. Tel était l'objectif du gouvernement. Et pour ce faire, je pense que le Mali a consenti d'énormes sacrifices.
Alors quel sacrifice, Tapa? Quel sacrifice a consenti le gouvernement?
Même si la ligne rouge tracés par le président ont été préservés.
À savoir, le respect de l'intégrité territoriale, le respect de la laïcité, mais quel compromis... Attendez, excusez-moi, c'est... Vous dites que le gouvernement a fait des efforts, à quel niveau?
Oui, au niveau de la responsabilisation des populations locales pour la gestion de leur avenir, en termes de régionalisation, puisque je pense qu'une large responsabilité a été accordée aux populations locales en matière de développement, en matière d'infrastructure, en matière y compris de sécurité avec la création de la police régionale, ouais. Police locale.
Ouais, c'est vrai. Donc, que l'accord...
Ça va chambouler complètement l'architecture administrative malienne.
Ouais. C'est vrai que l'accord prévoit la création d'assemblées régionales qui seront élues au suffrage universel direct. Barka, vous êtes à Kaï, bonjour.
Bonjour Anne, et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Est-ce que pour vous, ce projet d'accord de paix est un bon compromis?
Moi je pense que, Anne, comme Kappa vient de le dire, le Mali a consenti d'énormes sacrifices. Pour en citer, moi je prendrais juste l'engagement par rapport aux infrastructures éducatives, sanitaires qui ont été proposées dans les documents. Pratiquement, on demande pour tous les chefs lieux de cercle de mettre ce qu'on appelle chez nous les instituts de formation professionnelle. Dans les autres régions, on n'en trouve pas. Mmh. Je prends par exemple la région de Kaï, toutes les écoles du cercle de Kaï, de Djema, de Nioro, de Yirimane, vous les prendrez en totalité, vous trouverez que les 80% sont l'œuvre des populations. Au Nord, ce n'est pas le cas. C'est l'État qui investit. Si on doit parler d'autonomie, l'autonomie doit être basée sur l'apport de soi. Mais elle ne propose pas de contribuer, il compte sur des subventions, il vient que des subventions et demander un catalogue des réalisations.
Donc ça veut dire que la coordination des mouvements de la Zawad devra, ou doit plutôt, signer cet accord.
Oui, moi je pense qu'il ne doit même pas traîner pour signer l'accord, et puis comme Kappa l'a dit, et ils sont en train de mobiliser quelques personnes, si le Mali devrait en mobiliser, le Mali allait mobiliser des millions. Moi, à mon avis, vu les efforts consentis par tous les partenaires au développement, par tous ceux qui ont été impliqués dans cette médiation, ils ne doivent pas se permettre.
Ils ne doivent pas se permettre. Mais Barka, vous avez peut-être entendu, il y a un délégué du MNLA qui disait sur notre antenne que signer, en tout cas paraffer dans un premier temps cet accord, ce projet d'accord de paix, c'était prendre le risque de la rupture avec nos populations et l'ouverture d'une énième rébellion, puisqu'une partie de la population du Nord semble désapprouver ce projet d'accord de paix.
Oui, c'est ce qu'ils disent, mais en réalité, quand on vient sur le terrain, quelle est cette population du Nord qui les a sollicités pour venir construire une rébellion en 2012? Qui les a sollicités? Les gens qui étaient dans l'armée de Kadhafi, maintenant qui n'ont plus leur place en Libye, qui viennent au Mali. C'est comme ça qu'ils prétendent parler au nom d'une population. Ouais. En fait, pour moi, c'est du cinéma.
C'est du cinéma. Écoutez, ce sera votre mot de la fin pour aujourd'hui. Le débat est loin d'être clos. D'ailleurs, il se peut que cet accord soit paraffé d'ici la fin du week-end par la coordination des mouvements de la Zawad. On suivra ça, évidemment, tout au long de cette fin de semaine et on en parlera lundi. Merci Barka. Bonne journée également à Tapa qui nous appelait, lui, de Paris. La Guinée. On en parle et on va en parler évidemment dans les prochains mois puisqu'on connaît désormais la date de l'élection présidentielle. Ce sera le 11 octobre. L'annonce a été faite cette semaine par le président de la commission électorale. On sait également que les élections locales ont été repoussées en 2016, c'est-à-dire après la présidentielle. Et le problème, eh bien, c'est que l'opposition, elle réclame que les élections locales se tiennent avant la présidentielle. Bonjour Alpha.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous êtes à Conakry et vous comprenez, vous, que l'opposition puisse être furieuse aujourd'hui et qu'elle menace même de boycotter l'Assemblée nationale?
Oui, effectivement. D'abord, nous avons été surpris d'apprendre que la CENI a fixé la date de l'élection présidentielle avant la tenue des élections communales et communautaires. Et donc, le lendemain, l'opposition a menacé de reprendre le riz. D'ailleurs, le 6 mars, l'opposition avait fait une déclaration dans laquelle on pouvait retrouver les points ci-après. Elle menaçait de suspendre sa participation à l'Assemblée. Elle menaçait de ne plus reconnaître la CENI, de reprendre les manifestations et de demander à ses militants de désobéir aux délégations spéciales que le pouvoir en place a mis depuis 2010.
Si elle n'obtient pas un gain de cause, on peut même ne pas exclure un boycott de l'élection présidentielle. On n'en est pas encore là, bien évidemment. Mais pourquoi dites-vous que l'opposition a raison d'être vent debout, d'être en colère? Pourquoi faut-il organiser d'abord les élections locales et ensuite la présidentielle?
Oui, Juan, les délégations spéciales dansent la musique du parti au pouvoir. Donc, les délégations spéciales jouent un rôle majeur dans le processus électoral. Les délégations spéciales peuvent changer les PV des bureaux de vote à l'issue au soir des élections. Donc, l'opposition doute de la transparence de ces élections, sur ce qui la pousse à dire qu'il faut coûte que coûte avoir les élections.
Ce qu'il faut dire, Alpha, c'est que les Guinéens attendent les élections locales depuis 2010, hein, puisque les dernières élections locales remontent à 2005, hein, il y a donc maintenant 10 ans. Et donc les maires ont été remplacés par des délégations spéciales, et l'opposition accuse justement ces délégations spéciales d'être complices, d'être à la solde du pouvoir, et elles sont même convaincues que elles feront tout pour, au moment d'organiser les élections, d'organiser, de préparer des fraudes en faveur du pouvoir. Voilà les raisons invoquées par l'opposition. Comment débloquer la situation, Alpha ?
Oui, Juan, c'est le moment qu'il faut que la communauté internationale s'intéresse à ce débat. Il faut que la communauté internationale intervienne pour amener des partis autour d'une table pour trouver un terrain d'entente. C'est le moment. Il ne faut pas que la communauté internationale soit un spectateur avant de devenir acteur à la dernière minute. Parce que vous pouvez comprendre, en 2013, on a compté des dizaines de morts pour que la communauté internationale intervienne et amène les deux partis à organiser les élections législatives. Donc, il est temps de s'intéresser au cas guinéen pour qu'il y ait les élections communales et communautaires. Oui. L'opposition a dit si la CNP inclut la date des élections locales d'ici le 11 octobre, il n'y a pas de problème. Elle est d'accord. Parce qu'on
faut à un moment donné, il faut couper. Hein. Je suis désolé, il faut savoir mettre fin à une intervention. Je regarde la pendule, il y a beaucoup d'auditeurs. En plus, j'avais prévu de prendre plusieurs auditeurs hein, sur la Guinée avec différents points de vue. C'est vrai que ça faisait très longtemps qu'on ne parlait pas de la Guinée dans l'émission. Donc à chaque fois, évidemment, qu'on parle de la Guinée et des échéances électorales, ça suscite beaucoup de passion. On y reviendra, évidemment, c'est promis. Et je m'engage auprès des auditeurs qui étaient déjà en attente et qui souhaitaient s'exprimer. On parlera également prochainement de l'élection présidentielle. Je m'excuse pour Michel, mais qui souhaitait revenir sur les préparatifs de ce scrutin prévu dans tout juste un mois. Ce sera le 15 avril, hein, l'élection présidentielle au Togo. Mais je voudrais qu'on termine quand même en parlant football. On parle peu foot en dehors de la Coupe d'Afrique des Nations dans cette émission. Bonjour Achille.
Bonjour Juan, bonjour aux auditeurs et auditrices de RFI.
Vous êtes à Londres et vous nous interpellez. Absolument. Sur la qualification du PSG pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Le PSG qui a écarté Chelsea. Vous qui êtes à Londres, vous étiez pour PSG ou pour Chelsea ?
Parisien à mort. je suis totalement PSG pour la même raison que je suis un grand supporter d'Arsenal. Et vous savez qu'on ne peut pas supporter Arsenal et Chelsea quand on vit à Londres.
Bien sûr, on peut pas. Comme quand on vit en France, on peut pas supporter le PSG et Marseille.
Et Marseille, absolument, je ne supporte pas Marseille non plus. Donc, pour moi, c'était une belle victoire. Victoire, c'était un match nul, mais qualificatif. Ayant regardé le match, c'était un grand match que le Paris Saint-Germain a sorti. Et aussi, cette victoire venait aussi fermer un peu les propos personnellement que j'ai jamais aimé de José Mourinho, une certaine arrogance dans tout ce qu'il fait. Donc, c'est un personnage qu'on aime ou qu'on n'aime pas et qui est prêt à ne jamais prendre les responsabilités en tant que manager, mais plutôt c'est les joueurs qu'il blâme chaque fois quand il y a échec, comme il vient de le faire d'ailleurs. Contrairement à quelqu'un comme Arsène Wenger, français d'abord, et qui a quand même ce rôle de leadership où il évite de blâmer. Il peut blâmer ses joueurs quand ils sont au vestiaire, mais pas devant le public. Il les jette pas aux médias de cette manière. Donc c'était une très belle victoire parisienne pour que Chelsea se calme un peu et que se concentre maintenant sur la course au titre.
Ouais. En tout cas, c'est une belle revanche pour le Paris Saint-Germain qui avait l'année dernière été éliminé justement par Chelsea. On en saura plus vendredi prochain puisque le vendredi 20 aura lieu le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions et on connaîtra l'adversaire donc du Paris Saint-Germain en quart de finale. Merci à vous Achille et bonne journée à Londres. Merci à tous de votre fidélité. Lundi, je vous le disais tout à l'heure, on parlera donc du projet d'accord de paix au, au Mali. Sera-t-il paraphé par la coordination des mouvements de l'Azawad? Vous pouvez évidemment vous inscrire dès maintenant. On vous attend. 33 9 693 693 70. Excellente fin de semaine à tous. Et d'ailleurs, si vous souhaitez commencer le week-end dans la bonne humeur, n'oubliez pas évidemment les 20 ans de Couleur Tropicale aujourd'hui. Joyeux anniversaire évidemment à Claudicia et à toute son équipe, avec une